il vient et donne la solution. Et c'est pour ça que il y a un inconvénient à notre méthode de lire, parce que je vous lis un paragraphe, et alors si ça s'arrête là, c'est comme si c'était ça qu'il avait démontré comme ce qu'il voulait dire, comme son point de vue. Et puis, si par hasard on ne se souvient pas très bien, et que la fois suivante, je lis un autre paragraphe où il va exposer un autre point de vue, quelquefois totalement différent, quelquefois même opposé. Et puis on s'arrête là, alors conclusion, ça aussi c'est son point de vue. Alors ça fait une contradiction. Et puis si on continue, ça fait deux ou trois contradictions. Je vous dis ça parce que j'ai entendu des personnes qui avaient une façon assez superficielle de lire et peut-être aussi qui ne lisaient pas d'une façon assez continue. J'ai entendu plusieurs, parmi lesquels il y avait des gens qui se croyaient extrêmement intelligents et érudits, qui m'ont dit, mais cher Bindo, ça répète tout le temps dans ce livre. Il nous redit la même chose, presque à chaque paragraphe, parce que il présente tous les points de vue, puis il donne le sien, la conclusion. Puis une autre fois, il présente tous les points de vue et il donne encore sa conclusion. Et puis une autre fois, encore, il présente tous les points de vue, il donne tous les problèmes et finit par démontrer la vérité de ce qu'il veut nous enseigner. Alors, il se répète. Enfin, il suffit naturellement de lire avec assez d'attention pour ne pas tomber dans ce piège. Seulement, il faut faire attention de ne pas conclure au milieu d'un sujet. De ne pas vous dire, tiens, Sir Bindu dit que c'est comme ça. Il ne dit pas que c'est comme ça. Il vous dit qu'il y a des gens qui disent que c'est comme ça. Et il vous montre le problème, comment il est présenté par beaucoup de gens. Et puis, encore le même problème présenté par d'autres gens. Et c'est seulement quand il est arrivé à nous expliquer tous les points de vue qu'il présente sa propre conclusion. Et ce qui est infiniment intéressant, c'est que dans sa conclusion, c'est toujours une synthèse. Et tous les autres points de vue trouvent leur place à condition qu'on les ajuste convenablement. Ça n'exclut rien, ça combine tout et ça synthétise tous les points de vue. Mais quand nous avons une leçon toutes les trois semaines, on a le temps d'oublier ce que l'on avait lu avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de quel était le problème posé. Vous avez compris, vous devez pouvoir le dire de mémoire. Quel est le problème? Je veux bien vous le redire parce qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas eu de classe. Y a-t-il ou n'y a-t-il pas une évolution individuelle? Il y a une évolution universelle. Ça a été démontré, il l'a démontré. Mais dans cette évolution universelle, y a-t-il ou n'y a-t-il pas une évolution individuelle? Et alors il a... Maintenant, il nous a donné ce qu'il vient de nous dire. C'est une théorie qui se tient debout tout à fait, qui est tout à fait logique, n'est-ce pas, qui se tient debout, mais dans laquelle il n'est pas du tout nécessaire de postuler qu'il y a une évolution individuelle. Toute la combinaison universelle est logique, peut se démontrer logiquement sans introduire la nécessité d'une évolution individuelle. Alors, si nous continuons avec patience, après quelque temps, il va nous prouver pourquoi et comment cette notion d'évolution individuelle doit s'introduire dans le système qu'on adopte, le système d'explication qu'on va adopter. Mais ce que je voudrais savoir, c'est si ce problème a une réalité pour vous ou pas. Si ça correspond à quelque chose que vous comprenez ou pas. Si vous avez suivi qu'il est possible de concevoir un univers en progression, en évolution, sans que l'individu soit nécessairement en évolution individuellement. Il faudrait que je vous pose des questions pour vous demander si vous comprenez d'abord la différence qu'il y a entre une évolution universelle et une évolution individuelle. Et comment les deux peuvent procéder? Comment la nature procède pour son évolution universelle? Ça, je pense que vous avez compris. Comment est-ce qu'elle procède dans son évolution universelle?
On meurt et on naît encore.
Hein?
On meurt et matériel, n'est-ce pas?
Oui, on parle du monde extérieur, du monde physique tel que nous le voyons.
On meurt et on est.
Non, ça c'est autre chose. Non, ça c'est... Ça, ce serait le procédé d'une évolution individuelle, à condition que quelque chose de l'individu persiste à travers la mort et la vie. Alors dans ce cas-là, il y a évolution individuelle. Ce que tu dis, mourir et renaître, n'est-ce pas? C'est comme ça le procédé de l'évolution individuelle, à condition que quelque chose de l'individu ne meure pas. Parce que s'il mourait tout entier et qu'il se désintègre tout entier, qu'est-ce qui pourrait renaître? Forcément, quelque chose doit persister, qui persiste à travers les renaissances. Autrement, ce n'est plus la même personne. Autrement, si rien ne persiste, ce n'est pas l'individu qui progresse. C'est la nature se sert de la matière. Avec cette matière, elle produit des formes. Je vous le mets d'une façon simpliste. Mais enfin, elle dispose, n'est-ce pas, d'une masse de matière. Avec cette matière, elle fait des combinaisons. Elle a fait une forme. Et puis, cette forme se développe, mais ça se désagrège, ça ne persiste pas. En tant que élément de la forme. Pourquoi est-ce que ça ne persiste pas? Parce qu'elle a besoin de matière, de substance, pour refaire d'autres formes. Alors, elle défait ce qu'elle a fait. Et puis, avec ça, elle refait quelque chose d'autre. Et elle continue comme ça. Mais ça pourrait continuer indéfiniment sans que l'individu progresse. L'ensemble progresse. N'est-ce pas? Admets, tu as de la plastiline. Tu connais la plastiline pour faire du moulage, hein? Bon, tu fais une forme. Et puis, quand tu l'as fini, ça ne te plaît pas. Alors, tu fais comme ça, et tu défais, et tu refais une bouille. Et tu essayes une autre forme. Tu as fait un progrès, tu essayes, tu arranges, tu dis ça n'allait pas, ben je vais essayer comme ça, et ta forme est un peu mieux, mais c'est pas encore ce que tu veux. Alors encore, tu prends, tu mets de l'eau, tu fais une bouillie, et puis tu commences une autre forme. Et ça, tu peux le faire indéfiniment. N'est-ce pas? C'est toujours la même substance, mais ce n'est pas le même être. Parce que chacune de tes formes a une existence qui lui est propre en tant que forme. Et de la minute où tu l'as défait, il ne reste plus rien. Mais tu peux essayer la même forme ou tu peux essayer d'autres formes. Tu peux essayer, par exemple, de faire un chien ou un cheval. Et puis, tu n'as pas réussi. Tu peux recommencer un autre cheval ou un autre chien, mais tu peux commencer aussi une autre chose. Si tu construis, mais que tu construis une maison, et puis que ta maison ne te plaît pas, tu la démolis, tu en reconstruis une autre, sur un autre modèle. Mais il ne reste rien de la première maison que le souvenir, si tu veux le garder. Alors, n'est-ce pas, nous voyons que, comme nous l'avons déjà vu au commencement, que la nature commence avec une matière tout à fait inconsciente et informe. Et puis, essaye une forme et d'autres. Seulement au lieu de faire comme nous ferions une chose à la fois, elle en fait des millions à la fois. Mais ça, c'est simplement une question de proportion. C'est parce qu'elle dispose de plus de moyens, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a quelque chose de permanent comme un principe de vie ou un principe de conscience qui entre dans une forme et qui persiste quand la forme se défait pour entrer dans une autre. Ça pourrait être tout simplement comme toi avec ta plasticine, tu refais, tu redéfais indéfiniment, il ne reste rien, comme je disais, que le souvenir de ce qui était fait avant. Tandis que l'autre chose, c'est quelque chose de permanent qui passe d'une forme à l'autre et qui, à chaque nouvelle forme, fait un nouveau progrès et devient capable d'entrer dans une forme supérieure de plus en plus jusqu'à ce que ça devienne un être parfaitement conscient à la fin de l'évolution, qui aurait une évolution personnelle qui doublerait, pas indépendante, mais simultané et complétant l'évolution de la nature, ou plutôt se servant de l'évolution de la nature comme d'un champ pour sa propre évolution individuelle. Tu saisis, c'est toi? Bon. Alors, la prochaine fois, nous verrons. Ce qu'il a donné cette fois-ci, c'est l'explication d'un monde qui fonctionnerait d'une façon tout à fait logique et compréhensible, sans qu'il ait besoin qu'un être individuel passe d'une forme dans l'autre. Qu'il y ait quelque chose de permanent qui soit à la fois libre de toutes les destructions, de toutes les morts, qui persiste à travers toutes les formes et qui soi-même est une progression personnelle, individuelle, parallèle à l'évolution de la nature. C'est comme si dans la forme que tu as fait, au centre, il y ait une petite pierre assez précieuse que tu as introduite dans ton objet et que tu veux revêtir de formes successives. Ta petite pierre précieuse, tu la transportes d'une forme à l'autre. Et encore, la comparaison est incomplète parce que la pierre précieuse devient de plus en plus précieuse à mesure qu'elle passe d'un objet dans un autre. Ce serait comme si en passant d'une forme dans l'autre, elle deviendrait de plus en plus lumineuse et pure, et avec une forme de plus en plus précise. Maintenant, si vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser une question. Compris ou pas compris? Hein?
Un peu, j'ai
compris. Un peu. Ah, c'est déjà quelque chose. Alors, pour compléter, est-ce que tu crois qu'il y a une évolution individuelle ou pas? Est-ce que tu en as l'expérience? Et comment pourrais-tu en avoir l'expérience? Ça deviendrait intéressant. Comment peut-on faire l'expérience d'une évolution individuelle, indépendante de l'évolution collective de la nature? Tu peux répondre, toi?
À moins qu'on est conscient du principe qui est éternel en soi-même, qu'on peut en savoir si...
Ah, bon, c'est bon. C'est bien, mais alors ça revient à dire que je vous demande si vous êtes conscient du principe éternel qui est dans votre... Sure. Alors, on va regarder si on peut trouver ça au-dedans de soi.
Pourquoi est-ce que c'est si caché?
Peut-être simplement parce qu'on ne s'occupe pas assez de lui. Si on prenait la porte, la peine d'ouvrir les portes, on le trouverait peut-être. C'est évidemment un monsieur qui n'aime pas un monsieur ou une dame ou quelque chose, n'importe quoi, qui n'aime pas l'ostentation, qui ne se force pas à l'attention, à la surface. Mais peut-être qu'il s'attend à ce qu'on aille à sa recherche. Peut-être qu'il est assis très tranquillement tout au fond de la maison et qu'il faut ouvrir les portes l'une après l'autre. Moi, je trouve pas qu'il est caché. Je trouve qu'il est évident partout, tout le temps, à chaque minute, dans toutes les choses. On cherche, on va chercher.